La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus, le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous tous ici ce matin, dans ce lieu. Peut-être êtes-vous de passage à Paris et profitez-vous de ce moment pour venir partager un temps de cette communauté. Peut-être êtes-vous très loin et regardez-vous par le biais d'Internet ce moment de culte pour le partager avec nous. Vous êtes en communion avec nous malgré l'éloignement. Bienvenue à la famille de Jean-Marc qui vient avec lui ce matin pour ce moment très particulier qu'il a demandé à vivre avec nous. Bienvenue Jean-Marc ici dans ce lieu. C'est une famille de Savoie qui vient nous rejoindre et qui nous suit plutôt par Internet. Hein. C'est plutôt par là que Jean-Marc a créé le lien avec l'Oratoire du Louvre. Et quand il est à Paris, il fait peut-être comme certains ici ce matin, il passe à l'Oratoire du Louvre pour vivre un moment de culte ici. Jean-Marc a demandé son accueil dans la communauté protestante. C'est un moment extrêmement important pour lui, vous vous en doutez. Et cela fait déjà plusieurs années, de nombreuses années, qu'il chemine avec nous. Alors, de loin en loin, et puis de plus en plus proche, et puis aussi grâce au journal Évangile et Liberté, Jean-Marc s'est rapproché de notre libéralisme, de notre pensée théologique particulière. Et je suis très très heureuse de pouvoir l'accueillir avec vous tous et qu'il soit accueilli dans cette communauté comme dans une nouvelle famille pour lui. Je vous invite à chanter ensemble le premier répond du psautier français, et c'est Aurélien Péter ce matin qui est à la tribune et qui nous accompagne. Merci Aurélien. Je vous invite à vous lever et à chanter ensemble. Nous louons le Seigneur. Psaume de reconnaissance. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez Dieu, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Chantons notre louange avec un autre psaume, le psaume 138, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous asseoir. À ceux qui avaient mis sa confiance en lui, Jésus dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Que cette parole nous conduise dans nos routes, qu'elle nous accompagne sans cesse dans nos vies et qu'elle nous encourage à cette liberté. Nous nous présentons devant Dieu avec cette prière du frère Roger de la communauté de Thésée, qui est un chemin par lequel Jean-Marc est passé et qui permet à beaucoup de faire leur chemin spirituel et de choisir petit à petit, au fil des rencontres, au fil des séjours, au fil des prières et des veillées, le chemin qu'ils ont envie de prendre pour exprimer leur foi. Dieu qui nous aime, par l'Évangile, nous comprenons que personne n'est exclu de son amour et que ton esprit ne nous laisse jamais seuls. Il nous donne d'être en communion avec toi. Alors, humblement, nous te disons, toi le Christ, tu vois qui je suis. J'ai besoin de ne rien te cacher de mon cœur. Tu m'accueilles avec mes peines et mes inquiétudes. Tu comprends tout de moi. Jésus, à chacun tu offres le message de joie et d'espérance. Si démunis soyons-nous, donne-nous de mettre la paix là où il y a des oppositions. Et de rendre perceptible par notre vie un reflet de la compassion de Dieu. Oui, donne-nous d'aimer et de le dire par notre vie. Amen. Et Jésus annonce inlassablement la grâce de Dieu sur ceux qu'il rencontre. Et il dit dans le même évangile de Jean, « Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Que cette lumière illumine nos vies. Je vous invite à vous lever pour recevoir cette grâce et pour pouvoir y répondre par notre chant. Je vous invite à vous asseoir et je vais maintenant accueillir Jean-Marc ici près de moi. Venez, venez Jean-Marc et toute la communauté ici vous dit son amitié et vous accueille dans ce lieu. Mais chaque fois que vous aurez envie de nous retrouver, chaque fois que vous aurez envie de servir ici, vous serez ici chez vous. Je vous laisse la parole.
Au moment de prononcer ma confession de foi, j'exprime ma reconnaissance à la communauté qui m'accueille. J'ai découvert le protestantisme libéral par le site de cette paroisse, par ses publications et ses nombreux outils mis à disposition de tous, par la lecture de la revue Évangile et Liberté, et puis par la fréquentation du culte et des rencontres. Merci à Madame le pasteur Béatrice pour son accueil et son accompagnement. Je suis également reconnaissant envers l'Église d'où je viens. Désormais s'ouvre devant moi une nouvelle page que j'aborde avec confiance.
Je vais juste faire un geste liturgique. Je vous invite à vous lever pour partager ensemble la confession de foi de Jean-Marc qui sera pour aujourd'hui notre confession de foi à tous.
Je crois en Dieu. Père créateur du monde visible et invisible. Il est l'au-delà de tout, le tout autre et le tout proche. Il est la vie qui demeure et advient, au-delà de toutes les morts que nous connaîtrons. Il est le souffle de la vie, la puissance de l'amour. Il est la vérité ultime qu'aucun esprit humain ne peut concevoir, que nous contemplerons mon dernier jour dans le face-à-face avec l'invisible. Aucun dogme, aucune parole ne peut dire la vérité de Dieu. Rien de fini ne peut dire l'infini. Il est présent dès lors que sa parole est partagée, qu'elle nourrit en vérité nos actes et nos pensées. Il n'est pas un magicien et nous ne sommes pas ses marionnettes. Il ne se manifeste pas dans la force ou la gloire, mais dans l'humilité et le partage. Il n'abolit pas le mal, il n'efface pas la souffrance, mais les traverse avec nous. Dieu n'est pas un marchand qui daigne octroyer sa bienveillance à l'aune des prières qu'on lui adresse, des sacrifices qu'on lui dédie. Il est présent au premier instant pour chacun en plénitude et sans condition. C'est ainsi qu'il anime nos vies et colore nos existences. Aux noces de la vie et aux promesses du bonheur, chacun est invité. Je crois en Jésus. En lui, l'Esprit de Dieu prend corps. Il est le Verbe de Dieu fait chair. Sa parole fonde et éclaire notre conscience. Il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire au plus proche et dans l'intimité de sa présence. Il nous précède et nous entraîne à sa suite. Il annonce le divin en chaque homme, même dans sa pauvreté de cœur et d'esprit. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Il a connu toutes les noirceurs de l'humanité et en a traversé toutes les turbitudes. Relevé de la mort, il a bouleversé et transformé ceux et celles qui l'ont côtoyé. Sa résurrection est le mouvement de la mort vers la vie, des ténèbres et des ombres de nos jours ou de nos personnes vers la lumière. Il a écouté, consolé, pardonné, enseigné. Il promet à chacun cette vie en plénitude et en abondance. De nos fautes et nos errements, il nous pardonne. De nos chutes, il nous relève sans cesse dans une confiance aimante et toujours renouvelée. Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Dans les blessures et les brûlures de l'existence, il est en chemin à nos côtés. Comme les disciples d'Emmaüs, nous ne le reconnaissons pas toujours. Il est la vérité, tant désirée et recherchée, vérité toujours en approche. Il est la vie, car sa parole nous habite et nous conduit et nous élève au meilleur de notre humanité. Il est mon ami et mon maître, mon compagnon et mon frère. Je crois en l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu en nous nous rend libres. En lui, nous connaîtrons Dieu, et la vérité de cette relation nous rendra vraiment libres. Il est la paix qui libère de toutes nos peurs, la miséricorde qui efface nos fautes. Il dépose en nous un don unique, celui d'être porteur de sa vie. L'Esprit de Dieu nous rejoint dans le silence du cœur et vient habiter les profondeurs de notre être. Il nous exhorte à l'intelligence de la foi en sollicitant le meilleur du cœur et de la raison. En lui, nous sommes pleinement libres de nos choix, de nos errances et de nos fulgurances. Cette liberté nous oblige à une recherche honnête et constante de ce qui est juste, vrai et bon. Je crois en la vie éternelle, non pas dans un au-delà idéalisé, mais dans un aujourd'hui de Dieu transfiguré et sans fin. Je crois en l'Église, peuple des humbles chercheurs de Dieu. Dans la nuit des temps, ils nous précèdent, et aujourd'hui, ils sont nos frères dans la foi et nos frères en humanité. De cette fragile communauté humaine, nous partageons les limites et les faiblesses, mais aussi, en Jésus le Christ à nos côtés, toutes les promesses et toutes les espérances. Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. Amen.
Je vous invite à vous asseoir. Je voudrais à mon tour dire toute ma reconnaissance pour ce geste si particulier de dire très clairement ce que l'on a envie d'être et avec qui on a envie de le vivre. Merci à Jean-Marc de venir nous rencontrer, de venir faire partie de cette communauté, de venir grossir les rangs de ceux qui cherchent ensemble et d'y associer les amis, la famille qui est là. Merci beaucoup à vous d'être là. Je sais que c'est toujours un événement extrêmement important pour les proches aussi, et c'est un pas qu'il faut passer avec parfois une difficulté de savoir si l'on fait bien ou non. Et pourtant, c'est une évidence. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour ce moment que nous avons partagé tout de suite et qui inaugure tout le reste de votre vie, je l'espère. Je voudrais aussi associer votre fille qui est au loin, puisque là, il y a 3 enfants sur les 4 qui sont ici, et une autre enfant n'est pas là, mais pour des raisons de professionnelles et d'éloignement très grand, puisqu'elle est à l'autre bout de la terre. Et je voudrais vraiment l'associer à ce moment, et j'espère qu'elle regardera et qu'elle pourra partager ce moment avec nous. Merci. En préparant ce moment, nous avons choisi ensemble cet évangile, ce morceau d'évangile de Marc, dans le chapitre 7, les versets 24 à 30. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison et il voulait que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, d'origine syrophénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sont sous la table et mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva que l'enfant était étendu sur le lit et que le démon était sorti. Je vous invite à chanter le cantique 204, les strophes 1 et 2. Et nous nous levons. Prions ensemble. Toi, le Christ, tu offres un trésor d'évangile. Tu déposes en nous un don unique, celui d'être porteur de ta vie. Mais pour qu'il soit évident que le rayonnement vient de toi et non pas de nous, tu as déposé ce don irremplaçable dans des vases d'argile, dans des cœurs de pauvres. Tu viens prendre place dans la fragilité de nos êtres, là et non pas ailleurs. Alors, sans que nous sachions comment, tu fais de nous, si démunis et vulnérables, le rayonnement de ta présence parmi les humains. Amen. Convertir une valeur en une autre ou se laisser convertir d'une manière de croire ancienne à une nouvelle apparaît toujours comme la marque d'un changement difficile et qui demande la transformation totale de tout ce qui existait dans le passé en choses nouvelles. La conversion apparaît comme la flèche d'un vecteur orienté une fois pour toutes dans le sens du passé vers l'avenir, de telle sorte qu'il soit impossible de la réorienter différemment. Les récits des évangiles eux-mêmes, quand on les connaît un peu, résonnent dans nos mémoires comme s'ils étaient les récits menés à leur aboutissement sans retour possible sur le passé qui les a suscités. Pourtant, la conversion implique bien au contraire de ne pas oublier la valeur première qui a été convertie en valeur nouvelle. Et le passé, même converti en nouveauté, reste le socle sur lequel la construction se poursuit. Ainsi, la conversion n'implique pas l'oubli du passé, mais sa réinterprétation. Et il arrive bien souvent qu'on se révèle protestant, alors que tous les éléments étaient déjà bien en place pour l'être et qu'on ne le savait pas. Peut-on alors parler de conversion ? Ne doit-on pas plutôt parler de cheminement ? Il semble qu'il y ait des moments qui jouent le rôle de charnière dans nos vies, comme les articulations d'un récit, et qu'il faille assumer ces charnières pour pouvoir avancer dans une nouvelle histoire. Les récits évangéliques font eux aussi ce travail de réinterprétation pour dire à nouveau frais la foi qui anime les communautés qui les écrivent. Ainsi qu'on lise l'évangile de Matthieu, celui de Luc ou de Marc, les enjeux de création de récits autour de Jésus ne sont pas les mêmes. parce que les membres de la communauté qui s'identifiera à ces récits pour faire communauté n'ont pas tous le même passé. Ces textes ne parlent pas aux mêmes personnes partout et en tout lieu. Les charnières ne doivent donc pas être les mêmes. Et dans l'évangile de Marc, le récit de la rencontre avec la Syrophénicienne joue ce rôle de charnière en faisant passer Jésus du rôle de berger d'Israël au rôle de prophète des nations païennes. La controverse commence avant la rencontre entre les pharisiens et Jésus sur la question de ce qui est pur et de ce qui est impur. Cela arrive avant que Jésus ne se trouve face à cette femme syrophénicienne. Et dans cette rencontre avec les pharisiens et cette controverse, les pharisiens reprochent à Jésus que ses disciples ne s'adonnent pas aux ablutions rituelles qui sont normalement indiquées par la loi et par le rite et la tradition. Puis Jésus va plus loin en expliquant que ce n'est pas ce qui entre dans l'être humain qui le souille, mais ce qui sort de lui. Un texte provocateur par rapport à ceux qui lui parlent de pureté et qui veulent appliquer à la lettre leur loi. Ainsi, c'est la parole qui sort de l'être humain qui le souille. C'est l'intention d'un geste, c'est la sincérité d'un don. Bref, c'est ce qui le met en relation volontaire avec les autres, qui le souille ou non. À première vue, aucun rapport ne peut être fait avec l'histoire de la Syrophénicienne dont la fille semble être bien malade, elle qui a un démon, comme dit le texte. Pourtant, c'est en s'éloignant des pharisiens que Jésus va se trouver changé, pris à sa propre compréhension du pur et de l'impur, comme s'il n'avait pas compris lui-même la portée de son enseignement. La rencontre et les arguments échangés avec la Syrophénicienne semblent s'articuler à la controverse avec les pharisiens, comme s'il s'agissait de travaux pratiques pour Jésus. Il redonne une nouvelle définition au pur et à l'impur, à lui maintenant de voir ce que cela donne existentiellement. Il va devoir se convertir autant que ses propos le disent, et cela ne semble pas si facile. Alors qu'il est caché dans une maison du territoire de Tyr, dans l'actuel Sud-Liban, donc en territoire non-juif, Jésus est interpellé par une femme. Elle nous est décrite par des traits qui nous apparaissent comme des détails, mais qui n'en sont certainement pas. Elle est grecque, dit le texte. En effet, le territoire de Tyr était le dernier territoire appartenant encore aux Séleucides avant que l'Empire romain ne fasse main basse sur lui. Cette femme adore sans doute des dieux grecs. Mais on dit aussi qu'elle est d'origine syrophénicienne. C'est l'empereur romain Septime Sévère qui donnera officiellement à cette partie du Liban phénicien le nom de Syrophénicie en 193, donc sans doute bien après l'écriture de cet évangile. Mais sans doute sous l'empereur Adrien appelait-on déjà cette région ainsi pour la distinguer d'autres régions occupées par les Phéniciens. Cette femme est la mère d'une fille dont l'esprit est impur et elle est assez désespérée pour se jeter aux pieds de Jésus, lui le juif, qui a priori n'a pas grand-chose à lui offrir. En venant le débusquer dans la maison, la femme syrophénicienne le révèle comme prophète, portant la parole hors du peuple juif. Elle lui donne une nouvelle fonction en quelque sorte. Pour nous le faire comprendre, les écrivains de l'évangile de Marc reprennent un motif très connu de la culture judéo-chrétienne d'alors, la visite du prophète Élie chez la veuve de Sarepta. Sarepta étant au nord de Tyr, en Syrophénicie aussi, dans un territoire non-juif aussi. Lui aussi, ce prophète Élie, se cachait parce qu'il avait annoncé une canicule terrible au roi Achab et donc une sécheresse mortelle pour bien des gens de ce territoire. Devenu prophète de malheur, il doit se cacher et c'est chez une syrophénicienne qu'il trouve refuge et qu'il sauve le fils de celle-ci en l'étendant sur un lit avant de s'y étendre lui aussi pour lui redonner un souffle de vie. Ce miracle reste dans la mémoire commune et il va servir de motif pour comprendre ce que Jésus a à faire maintenant chez cette autre syrophénicienne à Tyr. L'évangile de Marc, en convertissant Jésus en prophète Élie, vient de le rendre proche de toutes les femmes, de tous les hommes et de tous les enfants à qui s'adresse cet évangile et qui en feront leur récit communautaire, qu'ils soient juifs ou grecs ou d'origine syrophénicienne, à condition bien sûr qu'ils puissent s'identifier aux petits chiens qui mangent sous la table. Ces petits chiens, je vous l'avoue, m'ont plongé dans la plus grande perplexité. À première vue, c'est une insulte, et Jésus apparaît comme un gros goujat par la comparaison qu'il fait de ces animaux avec cette femme, qui est pourtant déjà très abattue et qui n'a pas besoin de ça. Mais elle-même reprend l'allusion aux petits chiens et ne semble pas se défendre d'une insulte. Mais plutôt, elle semble entrer dans un dialogue crypté avec Jésus et une connivence entre eux s'installe alors. Qui sont ces petits chiens? Il n'est pas si fréquent d'en croiser dans les récits bibliques. Un animal impur, il n'est pas dans la liste des animaux impurs du livre du Lévitique. Un animal familier, tout dépend de qui et de quoi. L'archéologie nous apprend que sur certaines pièces de monnaie de la Syrophénicie antique, on voit un chien ayant trouvé un gros coquillage sur un rivage. Ce chien, c'est le chien d'Héraclès, le dieu local de la ville de Tyr en version grecque. En version phénicienne, c'est le dieu Melkar, dieu de la cité de Tyr. Mais vous savez que les mythologies ont toujours des accointances et on peut traduire Melkar en Héraclès. La mythologie phénicienne raconte qu'alors que le dieu Melkar ou Héraclès se promenait avec sa courtisane Tyros sur le rivage méditerranéen de la Phénicie, le chien de celle-ci trouva un coquillage, un murex, et mordit dans le mollusque. Sa gueule se colora alors d'un rose violacé et la courtisane demanda au dieu de lui faire teindre un vêtement de cette couleur extraordinaire qu'on nomme aujourd'hui le rose tyrien. Et voilà une piste fort intéressante pour les lecteurs de la Bible qui voudraient bien que Jésus ne fût pas un goujat, mais un homme cultivé qui connaissait la mythologie des Phéniciens. Il ne s'agit peut-être pas d'une insulte au bout du compte, et le dialogue entre la mère et le prophète semble un peu décrypté tout à coup. Jésus apparente cette population phénicienne au chien d'Héraclès, fondateur de son commerce de pourpre. Mais malheureusement, dans le mythe, la courtisane et son chien compliquent un peu les choses. D'abord parce que le chien, dans l'Antiquité, n'est ni pur ni impur, il est de ces êtres intermédiaires que les maîtres possèdent, un peu en dessous de l'homme et un peu au-dessus des animaux, au même titre que les esclaves ou les prostituées. D'autre part, certains rites païens de cette région laissent penser qu'il y avait des chiens employés dans les sanctuaires où l'on s'adonnait à la prostitution sacrée. Ce serait alors un autre tableau, et ce serait alors la petite, celle qui a ce fameux esprit démoniaque, celle qui a un démon, qui serait concernée comme petit chien, réduite à servir un rite ou un maître qui l'a servi. La scène devient alors terrible, et la condition de cette petite étendue sur le lit
libérer de ce démon qui est sorti d'elle a de quoi nous faire frémir. Quelle était la condition de ces deux femmes? Que vivaient-elles dont elles avaient besoin d'être libérées? Et quand elle rentra dans la maison, elle trouva que l'enfant était étendu sur le lit et que le démon était sorti. De quel démon s'agissait-il? Ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui est impur, mais ce qui sort, ce qui en sort, disait Jésus aux pharisiens avant de rencontrer cette femme syrophénicienne. N'avons-nous pas une illustration de ce qu'il affirme ici comme une conversion profonde de la compréhension d'une loi pour l'être humain et non d'une loi qui condamne l'être humain déjà soumis au mal? Cette mère et cet enfant n'ont-elles pas part au pain du ciel qui, jadis, avait déjà sauvé le peuple juif? Quand les enfants de Dieu ont eu la part qui leur revenait, n'a-t-on pas laissé quelques restes pour ceux qui recherchent un Dieu qui les libère et non qui les asservisse par des cultes où les hommes sont sacrifiés? La parole de foi qui sort d'elle n'est-elle pas pure et sincère? On ne sait quelle interprétation donner à cet épisode, sinon qu'une détresse immense pousse cette femme à chercher secours auprès de Jésus, et que celui-ci ne pourra défendre plus longtemps sa fonction de berger d'Israël, venu exclusivement pour amener les brebis perdues d'Israël vers leur père. Après cet épisode, dans l'évangile de Marc, Jésus opérera d'autres actes de révélation du salut de Dieu pour toutes et tous, quelle que soit leur origine et leur religion. Et la conversion opérée dans sa compréhension du pur et de l'impur sera comme un saut dans une nouvelle religion, pour lui aussi, une nouvelle foi, celle de la voie, celle de Jésus. Une nouvelle voie sans retour possible aux compréhensions passées, mais qui n'était possible que grâce aux motifs du passé. En effet, si Jésus n'avait pas eu devant lui, dans son histoire, le prophète Élie, peut-être cette conversion n'aurait-elle pas pu avoir lieu. Si l'imagerie de la religion des Phéniciens n'avait pas inspiré les auteurs de l'évangile de Marc, peut-être n'aurait-il pas pu écrire et dire à demi-mot, dans un dialogue empreint de gravité et de respect mutuel, la rencontre de Jésus avec une prostituée asservie et voulant autre chose pour sa fille. Le jeu des symboles ici, se convertissant de la mythologie à la réalité indicible, a permis aux auteurs de dire une violence impossible à décrire, et en même temps, ce jeu leur permet de révéler la foi de Jésus. Elle aussi en mouvement, se convertissant à l'amour de Dieu au fil des rencontres humaines. D'ailleurs, la tradition judéo-chrétienne qui perdurera jusqu'au moins au Ve siècle dans ces récits qui sont liés à ces deux femmes, verra dans ce symbole des petits chiens une allusion directe à la prostituée Justa et à sa fille Bérénice. Associées toutes les deux à des récits de folklore caniculaire, comme on les appelle, et qui ont un lien avec les légendes entourant les grandes sécheresses et les grandes misères. Le dieu de Tyr n'est-il pas le Baal local capable de faire tomber la pluie après tout? Ainsi, toute cette mythologie dit-elle la réalité d'un peuple qui a à lutter pour sa survie et pour les droits humains les plus élémentaires. De conversion en conversion, nous arrivons à la nôtre, à celle qui nous mène sur le chemin de compréhension des chemins toujours nouveaux et qui nous ouvre à la complexité des récits pour mieux nous faire sentir la complexité des situations humaines. On pourrait demander quel lien existe-t-il entre cette femme, sa fille et nous aujourd'hui? Peut-être aucun, si l'on n'est pas pris de compassion en lisant comment cette femme se jette aux pieds du Sauveur. Mais peut-être ce récit de guérison de la dignité d'une femme et de sa fille présente-t-il plus qu'un caractère émouvant? Peut-être nous rappelle-t-il que si l'impureté est ce qui sort de nous, c'est aussi le regard que nous portons sur les autres qui peut être impur. Tant que notre regard ne voit l'autre que dans son asservissement à ce qui le divise, peut-être ne le considérons-nous pas selon la dignité qu'il a aux yeux de Dieu. Peut-être aussi ce récit nous rappelle-t-il que la rencontre avec l'autre nous convertit toujours et que ce sont les deux qui se rencontrent, qui sont convertis ensemble. Aujourd'hui, un frère est venu nous dire sa foi et la partager avec toute notre communauté. Et cette conversion est fondée sur sa vie passée et tout ce que ceux qui l'entourent lui ont apporté. Mais il fallait faire ce saut dans un avenir où la cohérence entre la recherche de vérité et la foi vécue s'affirme, pour qu'il puisse continuer son chemin sereinement. Que ce chemin soit éclairé par la sincérité de sa recherche et la nôtre. Et que jamais nous ne coupions les fils qui tissent entre passé et avenir, la conversion du cœur et la foi vécue. À présent, le croyant d'hier et le croyant d'aujourd'hui ont fixé la charnière qui unit leur récit de vie dans cette communauté. À nous de lui conserver la souplesse nécessaire pour que jamais l'articulation entre les symboles qui peuplent sa foi d'hier et ceux qui peuplent sa foi d'aujourd'hui ne devienne grinçante. En Dieu, notre vie est une et éternelle. Amen. Je vous invite à chanter le psaume 23 et je vous invite pour ce psaume à bien suivre Aurélien parce qu'il semblerait que dans la partition, d'ailleurs c'est sûr, Aurélien me l'a montré, il y a un petit problème de coupure de phrase qui est mal imprimée, mal faite en tout cas dans la partition. Donc écoutez bien Aurélien qui va nous jouer une fois la mélodie de ce psaume. Merci.
Voilà, je vous invite à vous asseoir. C'est un moment d'annonce. Alors, je regarde mes conseillers presbytéraux, mes aides en tout lieu, qui ne me disent rien. Je descends tout de suite. Voilà, alors en ce temps de vacances, évidemment, les occupations sont un peu moindres, mais nous avons quand même un très beau programme qui se profile pour les jours qui viennent, et notamment dimanche prochain, nous serons dans la semaine toute proche de la Journée des Femmes. Vous savez que c'est le 8 mars, la Journée des Femmes, et il y a une très vieille organisation qui s'appelle la Journée mondiale de prière des femmes, qui a été créée par deux protestantes aux États-Unis et qui a toujours défendu les droits des femmes à travers le monde. Vous savez tous que la tâche n'est pas finie et qu'il faut continuer à dire sans cesse cette égalité voulue entre les femmes et les hommes et surtout leurs droits dans le monde. Et donc cette année, chaque année il y a un pays différent qui prépare cette journée mondiale de prière des femmes, et cette année ce sont les femmes de Taïwan qui ont préparé ce moment, et donc nous allons pouvoir partager avec elles les prières qu'elles nous ont envoyées, et nous allons pouvoir donc vivre ce moment. Alors d'habitude ça se fait le premier vendredi de mars, mais là ce sera le dimanche pour que toute la communauté puisse en profiter. Et donc vous aurez le culte du dimanche matin avec une liturgie qui sera sensiblement la même que celle que vous avez d'habitude, mais avec des prières qui nous sont envoyées par elles. Et puis après le culte, vous pourrez venir à la maison presbytérale au deuxième étage de la salle Mono, donc aux 4 rue de l'Oratoire pour ceux qui ne connaissent pas encore ces lieux, pour partager un repas communautaire, un repas de paroisse, voilà, et qui sera évidemment largement teinté de cuisine taïwanaise. Voilà. Alors, j'invite aussi toutes les personnes qui ont envie d'être bénévoles pour préparer ce repas à me rejoindre dans cette préparation. Vous m'écrivez un mail en vous portant volontaire et je suis tout à fait preneuse de toute aide pour préparer ce repas. Je vous dis donc pour la suite de ce programme qu'il y aura le partage biblique le 7 mars, donc mardi 7 mars, le midi le culte d'intercession, l'après-midi, donc après le culte d'intercession on aura un repas partagé salmono, et puis ensuite on aura un moment de partage biblique toujours autour des nourritures de la Bible. Et cette fois-ci, ce ne seront pas des petits chiens qui mangeront des miettes, mais nous parlerons de tout ce qui est viande et végétal dans la Bible et les distinctions qu'on fait entre les deux et la question de la religion autour de cette question. Voilà. Je pense que je peux vous dire aussi une autre information importante, c'est que Agnès n'est pas là ce matin parce qu'elle est à l'église Saint-Eustache. Et donc nous saluons nos amis catholiques pour ce moment de culte qu'elle partage avec eux. Et nous espérons bien sûr que ces liens continuent à être paisibles et amicaux. Je vous invite maintenant à un moment d'offrande. Vous savez que l'Église ne vit que des dons des fidèles. Vous savez que vous êtes l'Église de Jésus-Christ. Vous êtes ceux qui font que l'Église peut annoncer l'Évangile. Alors continuez à soutenir cette tâche si particulière que nous avons dans le monde d'annoncer l'espérance. Merci. Voilà, juste pour ajouter une annonce, je vois ici au Mémorial de la Shoah une exposition du 17 juin au 20, alors c'est aujourd'hui la fin, 26 février 2023, mais ça s'appelle À la grâce de Dieu, et donc c'est peut-être une exposition qui peut vous permettre de continuer la réflexion que nous avons eue déjà le dimanche du 12 février, où nous avons pu commémorer le sauvetage de 63 enfants juifs ici même, dans cette maison de vie, dans cet oratoire du Louvre. Je rappelle que tous et toutes vous êtes invités au repas du Seigneur et que personne ne doit s'en sentir exclu. Évidemment, ça reste au choix de chacun, mais en tout cas, notre Église accueille sans aucune condition, car c'est Dieu qui vous accueille à ce repas. Je vais inviter Jean-Marc à me rejoindre avec son épouse, ses enfants et ses amis. Voilà, ce sera une sainte scène d'accueil pour Jean-Marc. Je vous invite à faire cercle autour de cette table. Voilà, une fois n'est pas coutume, il me semble que c'est important de pouvoir signifier par nos gestes l'accueil que nous faisons aux familles qui nous rejoignent. Je vous invite à vous lever pour louer Dieu ensemble. Un jour, au milieu de nous, il y eut un homme comme nous, qui vécut et mourut. Un homme qui éprouva la peur, la colère, la confiance et la joie. Cet homme est le langage par lequel, toi, notre Dieu, tu as adressé au monde la bonne nouvelle de ton amour inconditionnel. Cet homme est un signe de ta grâce pour nous aujourd'hui, et pour ce don que tu nous fais, nous te disons merci et nous chantons ta gloire. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12, et pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour la multitude pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Je vous invite à prier ensemble. Père, au moment où nous partageons ton repas, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Nous recevons de toi ce repas, nourriture pour ce monde. Tu nous rassembles et nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi afin que ce pain et ce vin soient les signes de ta présence, de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Seigneur, nous te prions pour Jean-Marc et sa famille, que ce moment particulier d'accueil accompagne leur vie de tous les jours et rayonne sur leur existence. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, nous te prions pour toutes celles et pour tous ceux qui vivent dans le fracas de la guerre. Et nous pensons particulièrement au premier anniversaire si triste de la guerre en Ukraine. Mais à travers le monde, les guerres sont nombreuses et toujours terribles. Et les régimes autoritaires sont aussi nombreux et toujours insupportables. Pourtant, tant d'hommes et de femmes, d'enfants, supportent de vivre en enfer. Nous te prions pour tous ceux qui veulent la paix et résistent pour la justice. À défaut de pouvoir les aider directement, dans notre grande impuissance, que notre prière nous rende attentifs et veilleurs pour la paix et la liberté. Seigneur, nous te prions pour tous les hommes qui croient, qu'ils appellent Dieu Allah, Adonai, ou qu'ils le reconnaissent dans l'eau, les pierres ou le feu, qu'ils ne confessent aucun Dieu ou qu'ils s'attachent à des préceptes de sagesse. Nous te prions pour que toutes ces formes de foi se rejoignent quand il s'agit de faire reculer la violence. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui n'osent pas demander d'aide et qui vivent leurs difficultés seuls, sans voir d'issue à leurs problèmes. Aide-nous à rompre l'isolement et à aider là où cela est possible. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont victimes de la bêtise dans leur travail, dans leur famille ou dans tout autre lieu. Aide-les à ne pas céder à la bêtise et à la tenir pour ce qu'elle est. Aide-nous à ne pas renoncer à la complexité par paresse ou par orgueil et montre-nous le chemin étroit qui cherche la vérité. Que ton règne vienne. Pour les malades, les prisonniers, les endeuillés, tous ceux qui attendent un réconfort et le salut que tu promets dans leur quotidien. Seigneur, que ton règne vienne. Et nous te disons, comme les disciples l'ont appris, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. Le vin que nous partageons est communion en mémoire du sang versé par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je vais demander aux conseillers presbytéraux de me rejoindre pour ce moment de scène. Je vous invite. Voilà, je vous invite à participer à la fin de ce culte au pot de l'amitié qui a été préparé dans la grande sacristie. Donc surtout, n'hésitez pas, c'est le moment de faire connaissance avec ceux qui sont auprès de vous et avec qui vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de discuter encore. Et puis de faire connaissance aussi avec Jean-Marc et sa famille. Et puis peut-être aussi de venir saluer le plus petit paroissien de cette assemblée qui est tout au fond là-bas. Avec Elena et Pascal, voilà, qui sont un peu timides peut-être et qui n'osent pas se montrer, mais en tout cas, il y a un tout petit bébé là-bas au fond du temple. Et nous sommes très, très heureux aujourd'hui de pouvoir l'accueillir et le saluer. Voilà. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce vous bénit et vous garde. Dans sa paix, il vous donne sa propre paix et vous pouvez avancer d'étape en étape avec son esprit en vous. Que votre chemin soit toujours empli de cet amour inconditionnel de Dieu. Amen.